Audiolib présente Le chant du prophète de Paul Lynch, traduit de l'anglais par Marina Borasso, lu par Pierre-François Garel. À Anna, Amélie et Elliot. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Dans les temps sombres, y aura-t-il aussi des chants? Oui, il y aura aussi des chants sur les temps sombres. Bertolt Brecht. Chapitre 1. La nuit est tombée, et elle n'a pas entendu les coups à la porte. Elle regardait le jardin par la fenêtre. L'obscurité qui enveloppe les cerisiers sans un bruit. Elle achève de recouvrir leur feuillage, et le feuillage ne lui résiste pas. Il accueille l'obscurité dans un murmure. La fatigue, la journée tirant à sa fin, et tout ce qui lui reste à faire avant d'aller dormir, les enfants réunis au salon, ce sentiment de paix qu'elle éprouve fugacement devant la vitre. Contempler le jardin gagné par l'ombre et ce désir en elle de s'unir à l'obscurité, de sortir s'étendre à ses côtés, reposer près des feuilles mortes et laisser couler la nuit, ne se réveiller qu'à l'aube et se lever régénéré avec le matin. S'il n'y avait pas ces coups à la porte, elle les entend se loger dans sa conscience, la brusquerie, l'insistance qu'il y a dans ces coups. Chacun semble si rempli de la présence de celui qui frappe qu'elle fronce les sourcils. Maintenant, c'est Bailey qui cogne sur la porte vitrée de la cuisine. « Maman » appelle-t-il, pointant un doigt vers l'entrée sans détacher les yeux de l'écran. La voilà qui déplace son corps dans cette direction, le bébé dans les bras. Eilish s'avance pour ouvrir, et il y a deux hommes derrière la vitre de la véranda. Dans le noir, ils n'ont pas vraiment de visage. Elle allume la lumière, et aussitôt elle reconnaît ces hommes à leur manière de se tenir. L'air froid de la nuit qui semble respirer quand elle fait coulisser la porte, le calme des quartiers résidentiels, la pluie feutrée qui tombe sur St. Lawrence Street et sur la berline sombre garée devant la maison. Ces hommes qui semblent apporter avec eux la sensation de la nuit. Elle les observe à l'abri d'un refuge intérieur. Le jeune homme de gauche demande si son mari est là, et cette façon qu'il a de la regarder, à la fois distante et inquisitoriale, lui donne l'impression qu'il cherche à saisir quelque chose en elle. D'un rapide coup d'œil, elle a parcouru la rue, aperçu un passant solitaire qui promenait son chien, protégé par un parapluie, le balancement des saules qui saluaient la pluie, les pulsations lumineuses d'un grand écran dans le salon des Ayatch, de l'autre côté de la rue. Et finalement, c'est elle-même qu'elle inspecte. Elle en rirait presque de ce sentiment de culpabilité que l'on éprouve toujours quand la police frappe à la porte. Ben commence à s'agiter dans ses bras. Le plus âgé des deux agents en civil, celui de droite, paraît se radoucir en regardant le bébé. Alors c'est à lui qu'elle s'adresse. Elle sait que lui aussi a des enfants. On devine forcément ces choses-là. Et puis, l'autre est beaucoup trop jeune, inflexible et impeccable. Dès qu'elle prend la parole, elle se rend compte du soudain tremblement de sa voix. « Il va bientôt rentrer, d'ici une heure environ. Vous voulez que j'essaie de le joindre ?»«
Non, ce ne sera pas nécessaire, Mrs. Stack. Quand il sera de retour, pourrez-vous lui demander de nous contacter dans les meilleurs délais ? Je vous laisse ma carte de visite.
Appelez-moi Eilish, je vous en prie. » Puis-je vous être utile en quoi que ce soit ?
Non, madame, je regrette. C'est une affaire qui concerne exclusivement votre mari.
Le plus âgé des deux adresse un grand sourire au petit, tandis qu'Eilish s'attarde sur les fronces autour de sa bouche. C'est un visage que la solennité du métier dérange. Il n'est pas taillé pour ça.
Il n'y a pas de quoi se tracasser, Mrs. Stack. Pourquoi je me tracasserais, inspecteur ?
En effet, madame, nous ne voulons pas abuser de votre